I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est l'un des symboles de Paris, avec la Tour Eiffel, Notre-Dame ou encore le Sacré-Cœur. Situé entre les Champs-Élysées et la Seine dans le 8e arrondissement, le Grand Palais est en cours de rénovation. Les travaux doivent être totalement terminés en 2026 avec la réouverture du Palais de la Découverte qui en fait partie. Mais la première tranche de ce chantier est achevée. L'immense verrière a fait peau neuve. Le site va accueillir cet été des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et à partir de 2025, le public va pouvoir profiter d'un grand espace couvert de 3000 m² accessible gratuitement. Code Source fait le point aujourd'hui sur ces travaux et retrace l'histoire du Grand Palais avec Pauline Darvé, journaliste à l'édition de Paris du Parisien. Pauline Darvé, le Grand Palais doit accueillir plusieurs compétitions pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont se disputer du 26 juillet au 11 août.
Oui, ce sont les épreuves d'escrime et de taekwondo qui vont donc se dérouler sous la nef du Grand Palais. Et il y aura ensuite les Jeux Paralympiques avec cette fois-ci les épreuves d'escrime fauteuil et de para-taekwondo.
Alors vous avez pu interviewer les principaux acteurs de cette rénovation, notamment l'architecte en chef des monuments historiques qui est en charge du Grand Palais depuis 2010. Et vous faites aussi partie des rares journalistes à avoir eu le droit à une visite guidée à l'intérieur en plein chantier, on y reviendra. Mais d'abord, on va retracer l'histoire du Grand Palais. Il a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Au départ, quelle est l'idée ?
Alors, l'idée, c'est d'en faire un palais des beaux-arts. À l'époque, sur ce site, il y a le palais de l'industrie qui lui aussi a été construit pour une précédente exposition universelle. Donc l'idée, c'est de détruire cet endroit et de le remplacer par un immense palais des beaux-arts. Il y a l'idée aussi de percer une avenue dans l'axe du futur pont Alexandre III qui, à l'époque, n'existe pas. Et donc, c'est un pont qui va être lui aussi inauguré en 1900 en même temps que le Grand Palais. Et il y a aussi le Petit Palais, juste de l'autre côté de l'avenue qui s'appelle aujourd'hui l'avenue Franklin Roosevelt, qui va lui aussi être construit à l'occasion de cette exposition universelle.
Le Grand Palais est construit en quelques années seulement.
Oui, les travaux commencent en 1897 et il voit le jour en à peine 3 ans, ce qui est vraiment une prouesse technique.
Alors que le site n'est pas facile.
Oui, c'est un site qui est assez compliqué puisque le Grand Palais est construit en bord de Seine, donc sur les alluvions de la Seine, et donc sur un sol qui est assez mouvant. Donc l'idée qui a été retenue, c'est de le construire sur des pilotis.
À quoi ça ressemble, le Grand Palais ?
Alors déjà, c'est un bâtiment qui est vraiment immense. On pourrait y faire tenir tout le château de Versailles, qui mesure donc 63 000 m², alors que le Grand Palais en fait 72 000. Et puis, ce qui caractérise vraiment ce monument, c'est sa verrière, qui est encore aujourd'hui l'une des plus grandes, voire la plus grande d'Europe. Et donc, cette verrière surplombe une nef qui est elle aussi immense. Et de l'autre côté du monument, il y a ce qu'on appelle le Palais d'Antin, et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Palais de la Découverte.
Le Grand Palais a accueilli plus de 50 millions de visiteurs pendant l'exposition de 1900. Ensuite, il y aura le 3e mondial de l'automobile en 1901 ou encore le Salon des arts ménagers et le concours hippique de Paris. Pauline Darvé, le Grand Palais a été témoin de son histoire, par exemple pendant les deux guerres mondiales.
Oui, ça commence avec la Première Guerre mondiale où le Grand Palais est transformé en hôpital militaire. Donc à ce moment-là, il y a notamment des sanitaires qui sont installés pour accueillir environ 2000 personnes. Et puis la grande histoire revient à nouveau toquer à la porte du bâtiment en 1940 pendant l'occupation. Là, les Allemands s'en servent de parking, ils garent leur camion dans l'enceinte du Grand Palais. Puis à partir de 1941, plusieurs expositions de propagande y sont organisées, notamment pour promouvoir l'idéologie nazie et la collaboration. Et puis le 23 août 1944, c'est un nouvel épisode qui vient marquer l'histoire du lieu. Et cette fois-ci, ça se passe lors des combats pour la libération de Paris. Et là, ce sont les Allemands qui attaquent le bâtiment à l'explosif et un incendie ravage toute la partie nord du Grand Palais.
Et juste après la guerre, en 1945, le gouvernement du général de Gaulle organise sur le site une exposition sur les crimes nazis. Dans les décennies qui suivent, Pauline Darvet, le Grand Palais accueille de nombreux événements populaires.
Oui, il y a notamment de nombreux salons qui sont organisés chaque année, comme par exemple le salon de l'automobile qui passe la barre du million de visiteurs. Il y a aussi le salon des arts ménagers qui lui atteint même 1,5 million de visiteurs. Et globalement, c'est ce qui fait la renommée du Grand Palais. C'est cette grande place publique en plein cœur de Paris qui accueille de nombreux événements qui attirent à chaque fois beaucoup, beaucoup de visiteurs.
Un jour, en juin 1993, un événement inquiète tout le monde.
À ce moment-là, il y a une exposition qui est dédiée au design, donc à l'intérieur de la nef du Grand Palais. Et subitement, un boulon se détache de la voûte du Grand Palais et tombe de 35 mètres de haut sur l'un des stands. Ça ne fait pas de blessés, mais par contre, ça inquiète beaucoup sur les fondations du bâtiment.
Qu'est-ce qui est décidé ?
Dans la foulée, des études sont faites et 5 mois plus tard, la décision tombe. Il faut fermer la nef pour travaux. Et d'ailleurs, elle ne rouvrira que 12 ans plus tard. Et comme on l'expliquait au départ, le Grand Palais est donc construit sur des alluvions de la Seine, donc sur un sol qui est mouvant. Et à ce moment-là, les experts s'aperçoivent que les fondations ont bougé de 13 cm.
Ces travaux, de quoi il s'agit ?
Ce sont des travaux très lourds pour consolider les fondations de la nef, mais aussi pour refaire toute la verrière.
Donc en 2005, la verrière est totalement rénovée. Concrètement, qu'est-ce qui change ?
Il y a un changement qui est assez important puisque le verre qui constituait la verrière était du verre armé, donc un verre un petit peu opaque. Et ce verre-là est remplacé à l'occasion de la rénovation par un verre qui est transparent. La lumière peut vraiment entrer à l'intérieur de la nef du Grand Palais. Et donc pour les visiteurs qui la redécouvrent après 12 ans de fermeture, il y a vraiment un effet assez stupéfiant où voilà, il y a l'immensité du ciel qui entre directement dans cet espace.
À partir de là, de nouveaux événements prestigieux sont organisés sous la verrière, comme des concours hippiques, le saut Hermès ou encore les défilés Chanel. En ce qui concerne les travaux de rénovation, plusieurs espaces intérieurs du Grand Palais sont restaurés en 2011, mais ça ne suffit pas. En 2013, un nouveau projet est lancé pour transformer en profondeur le Grand Palais.
Oui, il est remporté par une jeune agence d'architecture qui s'appelle LAN. Et effectivement, leur idée est vraiment de transformer complètement le Grand Palais. Et pour ça, ils veulent notamment creuser la nef, donc en enlevant 50 000 tonnes de terre. Ils prévoient de détruire les galeries qui sont en surplomb. Ils veulent rendre les toits accessibles. Et ils veulent même créer une rue bordée de boutiques. Donc l'idée, c'est d'accueillir jusqu'à 4 millions de visiteurs par an contre 3 millions jusqu'alors. Et donc de doubler la capacité de la nef.
Ce projet est jugé cher et il est décrié.
C'est un projet qui est très coûteux. L'agence d'architectes continue à travailler dessus, mais au fil des années, la facture ne cesse de gonfler. Elle va même quasiment doubler pour atteindre les 466 millions d'euros en 2020. Et donc, la Cour des comptes, notamment, tire la sonnette d'alarme. Un rapport est notamment publié en 2018 et alerte sur un projet démesuré.
En septembre 2020, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, annonce l'abandon de ce projet jugé pharaonique.
Oui, cette annonce intervient après des semaines de rumeurs et la ministre de la Culture explique notamment que pour tenir ce budget de 466 millions d'euros, il aurait fallu renoncer à beaucoup d'éléments du chantier. Il y a aussi l'extérieur du bâtiment qui se dégrade beaucoup plus vite que prévu. Il y a un de ses proches aussi qui explique que ça aurait été une destruction massive du bâtiment et qu'au fil des années, le projet était de plus en plus daté. Et puis c'est finalement le confinement et la période de Covid qui a donné le coup de grâce à un projet qui était vraiment démesuré.
À ce moment-là, un plan B est retenu. Qu'est-ce qui est différent par rapport au précédent projet de rénovation du Grand Palais ?
Donc cette fois-ci, c'est François Chatillon, l'architecte en chef des monuments historiques, qui est notamment en charge du Grand Palais, qui récupère l'intégralité du chantier. Lui devait jusqu'alors s'occuper uniquement de la rénovation des façades et des décors. Et donc l'architecte explique d'emblée qu'il veut restaurer plutôt que transformer. Donc il n'est plus question de décaisser la nef ni de casser des galeries. Lui veut simplement prendre le bâtiment tel quel pour travailler avec lui. Et de toute façon, la restauration de ce bâtiment est devenue vraiment nécessaire car c'est un bâtiment vétuste qui n'est plus du tout aux normes.
L'État va financer la plus grande partie des travaux. Il y aura aussi un prêt de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais, l'organisme qui a la responsabilité du site, prêt de 150 millions d'euros. Également un mécénat de l'entreprise de luxe Chanel, 25 millions d'euros. Mais le montant total des travaux est finalement le même que pour le précédent projet, c'est-à-dire 466 millions d'euros. Comment est-ce que les responsables du projet expliquent ça ?
Alors ils disent qu'il y a d'abord eu des imprévus dans le chantier. Ils ont par exemple découvert que certaines sculptures s'effritaient et donc nécessitaient aussi une restauration. Et puis, ils expliquent que les coûts du projet initial avaient été sous-estimés et qu'en réalité, ce projet-là, s'il avait été mené à son terme, aurait coûté beaucoup plus cher.
Les travaux débutent au printemps 2021. L'un des enjeux principaux, Pauline Darvé, c'est d'améliorer la sécurité du Grand Palais pour pouvoir accueillir plus de monde.
Oui, le lieu est devenu vraiment très vétuste. Il y a des enjeux en termes de sécurité, de confort, mais aussi d'accessibilité. Et donc, il y a notamment la nécessité de créer plus d'issues de secours pour augmenter la capacité de la nef, qui jusqu'alors pouvait accueillir 6000 personnes et qui, après les travaux, pourra en accueillir 9000. Un des autres impératifs, c'est de percer le bâtiment pour créer une quarantaine d'ascenseurs et de monts de charge. Il n'en existait que deux, par exemple, dans tout le bâtiment.
L'autre gros enjeu concernant la verrière, c'est les températures qui peuvent monter beaucoup l'été avec la réflexion du soleil.
C'est l'un des gros problèmes de la nef. Il y fait très froid en hiver et très chaud en été, à tel point qu'aucun événement ne pouvait être organisé en juillet, en août dans cet espace-là, puisqu'il faisait vraiment trop chaud. Donc l'idée avec cette restauration, c'est d'installer ce que l'architecte appelle une dalle active, donc c'est-à-dire c'est des tuyaux qui vont passer sous le sol de la nef, avec de l'eau froide pour rafraîchir le site en été et de l'eau chaude pour le chauffer en hiver. Des ventilations sont aussi installées pour tenter de rafraîchir au maximum cet espace.
Pauline Darvé, les architectes en charge du projet veulent aussi libérer l'espace entre les différentes parties du Grand Palais, donc la nef, le Palais de la Découverte et les Galeries Nationales.
Oui, l'architecte explique que le Grand Palais était au départ un seul et même bâtiment. Et puis, au fil des années et de ses différentes occupations, il s'est progressivement cloisonné. Et donc, on a perdu cette unicité de lieu. Et donc, un des gros enjeux de son projet, c'est donc de retrouver cette unité de lieu en recréant les circulations originelles. Il va notamment installer des grandes baies vitrées pour retrouver cette transparence. Et ce qu'il dit, c'est que n'importe où qu'on soit dans le Grand Palais, on pourra à l'avenir toujours voir la nef et d'emblée savoir qu'on se trouve dans le Grand Palais.
Le but, c'est que les visiteurs puissent y passer toute une journée, c'est ça ?
C'est ce que souhaiterait le nouveau président du Grand Palais, qui s'appelle Didier Fusillé. Lui explique que l'idée originelle du lieu, c'était d'en faire un palais des fêtes, et donc il veut renouer avec cet esprit-là. Et il aimerait que les visiteurs y viennent sans même savoir ce qui est programmé, et déambulent dans le site, s'y perdent et y passent sans s'en rendre compte une journée entière.
Cet espace est censé ouvrir ses portes au public en 2025. Concrètement, ce sera gratuit ?
Alors, il y a environ 3000 m² qui seront accessibles librement sans billet. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté, puisque jusqu'à présent, le Grand Palais était accessible uniquement en achetant un ticket à l'entrée. Donc il y aura ces 3000 m² qui auront été décloisonnés lors de ce chantier. Et donc à l'intérieur, les visiteurs pourront admirer la nef depuis des baies vitrées, mais aussi accéder à un espace dédié aux familles et aux enfants, avec des ateliers notamment, Il y aura tout un espace restauration et boutique également.
Cet espace, où est-ce qu'ils l'ont trouvé ?
En fait, l'équipe d'architectes a modélisé en 3D l'ensemble du bâtiment dans son état de 1900. Et à cette occasion, ils ont découvert donc ces près de 3000 m² qui se trouvent donc au centre du Grand Palais, entre la nef et le Palais de la Découverte. Et en fait, c'est un espace qui avait été totalement englouti sous des cloisons, des planchers ou des locaux techniques. Et en fait, avec cette modélisation, ils ont pu voir que l'architecture méritait vraiment d'être mise en valeur. Et donc, c'est tout cet espace-là que les visiteurs vont pouvoir découvrir. Et François Chatillon dit même que ça va être une vraie révélation.
La dernière partie du Grand Palais qui va rouvrir après cette rénovation, ce sera le Palais de la Découverte en 2026. Pendant ce temps, le musée d'art Beaubourg, lui, sera fermé 5 ans pour travaux de 2025 à 2030. Et le Grand Palais, Pauline Darvé, va accueillir une partie des œuvres de Beaubourg.
Oui, les équipes du Centre Pompidou vont s'installer dans plusieurs galeries du Grand Palais sur 2000 m². Donc il y a plusieurs expositions qui vont s'y dérouler en partenariat entre ces deux lieux.
Pauline Darvé, on le disait au début de ce podcast, vous avez pu entrer dans le Grand Palais en plein chantier le mercredi 28 février. Décrivez-nous ce que vous voyez à l'intérieur.
Déjà, c'est une véritable fourmilière. Le jour où j'y suis allée, il y avait plus de 900 ouvriers de tout corps d'État qui travaillaient à l'intérieur. Donc certains peignaient, d'autres s'occupaient de l'électricité, d'autres étaient en train de scier des planches. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, tous ces corps de métier ne travaillent pas ensemble. La peinture, par exemple, se fait en dernier. Mais là, ils ont été vraiment obligés d'accélérer la cadence, puisqu'au mois de septembre, lorsque le nouveau président du Grand Palais a été nommé, le chantier a accusé un retard très important. Donc Didier Fusillé explique qu'il a convoqué une réunion de crise. Et là, l'idée, ça a été d'augmenter au maximum les capacités du chantier, qui normalement devait se limiter à 500 ouvriers. Et ils sont montés à plus de 1000 là, ces dernières semaines.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans ce Grand Palais, sous la verrière notamment ?
Il y a vraiment une sensation d'immensité, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, mais quand on rentre dans cet espace totalement décloisonné, c'est vraiment un espace immense et très lumineux, puisqu'on est sous cette verrière, donc la plus grande d'Europe. On a l'impression presque d'être dans un navire, mais en même temps d'avoir une vue sur le ciel qui est assez imprenable.
On l'a dit, les responsables du chantier doivent donner les clés du site au comité olympique le 19 avril. Ce sera prêt ?
Normalement, oui. Didier Fusillé, donc le président du Grand Palais, explique que de toute façon, la date des Jeux olympiques ne peut pas être décalée. Donc on imagine que le 19 avril, les clés seront bien remises comme convenu à Paris 2024.
Merci à Pauline Darvé. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.